Bonjour. Le chaos encore ce matin au-dessus de Nice, des villages entiers, autant d'habitants coupés du monde, routes impraticables dans les vallées de l'arrière-pays, pas d'électricité, pas d'eau potable. Les secours s'organisent comme ils peuvent, on craint de nombreuses victimes, l'ampleur des dégâts est considérable. Les États-Unis dans le grand doute à un mois de la présidentielle. Comment va Donald Trump ? Vidéo du président cette nuit où il dit aller beaucoup mieux, mais son médecin, jusqu'ici rassurant, avoue qu'il n'est pas encore sorti d'affaire. Dans l'actualité encore, Paris en alerte Covid maximale, sans doute pour demain. Les bars pourraient fermer, quid des restaurants ? On fera le point dans ce journal et puis aussi avec votre invité Eric.
Oui, à 8h20, François Asselin, le président de la CPME, les petites et moyennes entreprises.
Le tennis aussi, encore un petit prodige français qui fait des siennes à Roland-Garros. Fiona Ferro part en 8e et puis du cheval, ou plutôt de la jument dans Esprit Sport. C'est à la fin du journal.
France Inter.
8 personnes portées disparues, englouties dans leur maison ou leur voiture. 10 autres sur la liste des recherchés des habitants dont on est sans nouvelles. Hier, sur place, le Premier ministre Jean Castex s'est dit inquiet sur l'évolution du nombre de victimes. Des villages entiers, 36 heures après ces inondations, sont totalement coupés du monde. Dans la vallée de la Roya notamment, la situation est critique. Impossible encore ce matin d'entrer en contact avec les habitants de Tende, Saorge, Fontan. Justine Leclerc de France Bleu Azur a réussi à passer pour rejoindre Breil-sur-Roya. Voici son reportage.
Posté face au fleuve de la Roya au débit encore impressionnant, ses habitants constatent les dégâts.
Il y avait des bungalows et tout là.
C'est affreux, hein. Le bruit de l'eau, pas de lumière, pas d'eau, c'est stressant, hein, pour tout le monde. Quand je vois ce qu'il y a en face et en bas sur la place, on aurait du mal à se remettre quand même.
Des maisons ont été détruites, des dizaines de voitures emportées, des arbres déracinés, le pont vers le stade de foot a été arraché. Luc a eu quelques dégâts chez lui.
On a passé la nuit à racler, à vider les seaux, donc nuit blanche. Pas trop de dégâts par rapport à d'autres qui ont tout perdu. Et ouais, je pensais pas que ça allait être aussi grave. Moi qui ai vécu quelques cyclones aux Antilles, on n'en est pas loin, quoi. C'est dramatique sur la place là-bas, toutes les voitures, c'est une casse.
Le téléphone est aussi coupé, alors pour informer la population, c'est la méthode à l'ancienne.
Demain matin, distribution d'eau devant Roya Agricole.
Audrey Rossi, première adjointe à Breil.
On n'a pas arrêté et on n'arrêtera pas tant que les administrés soient en sécurité, qu'ils soient rassurés aussi.
Les habitants de Breil-sur-Roya peuvent aussi trouver du réconfort au collège transformé en lieu d'accueil d'urgence. Hier, un barbecue est organisé grâce aux dons de la supérette du village.
Vous l'entendez, on n'en est pas à la reconstruction, on en est loin même. L'heure est bien au premier secours, à la recherche aussi de victimes. L'armée a mobilisé 4 hélicoptères pour évacuer et ravitailler les habitants. Cette phase va durer des jours entiers. 3 mois de pluie en quelques heures, une crue jusqu'à 8 mètres de hauteur, comme un mini tsunami dans ces vallées escarpées. Une image restera comme le symbole de cette catastrophe. Ce couple de nonagénaires qui agite sa lampe derrière les fenêtres avant que leur maison ne soit emportée dans le torrent de boue. À Roquebillière, dans la vallée de la Vésubie, le maire est encore sous le choc. C'est un couple qu'il connaissait bien.
On les a appelés, on leur a demandé de partir. Ils ont refusé de partir parce qu'ils avaient déjà connu 1993 et ils ont dit qu'ils n'avaient plus envie de connaître ça. La dame avait 93 ans, lui 98, et ils ont dit que tant qu'à faire, ils préféraient mourir sur place que de recommencer la même histoire que la fois dernière. Alors on a insisté, on a parlementé, on a argumenté. Et à la fin, ils m'ont téléphoné pour me dire qu'ils avaient accepté de s'éloigner et de se rendre chez un ami qui les accueillait. Mais en réalité, ça n'était pas vrai. Et ils sont restés dans la maison quand même. Donc on a recommencé les mêmes discussions pour essayer de les faire partir. Mais là, c'était bien trop tard. Moi, je me suis éloigné 5-10 minutes. Et le responsable des routes est resté en essayant de leur dire de partir. Et il a vu la maison. Il m'a dit, j'ai vu la maison se fendre et disparaître sous les flots avec eux.
Gérard Monfredi, le maire de Roquebillière, avec Farida Noir. La reconstruction, elle, on le sait, va prendre des mois. Il y en a pour des dizaines de millions d'euros. La procédure de catastrophe naturelle a déjà été enclenchée. Elle sera déclarée mercredi prochain en Conseil des ministres.
L'actualité, Hélène, ce matin, elle est aussi dominée par une question à un mois de la présidentielle aux États-Unis. Comment va Donald Trump ?
Positif au Covid. Donald Trump a donc passé sa deuxième nuit à l'hôpital. Et le voici hier soir dans une vidéo sur Twitter pour rassurer, juste après une déclaration choc de son médecin qui, lui, pour la première fois, se montre beaucoup moins optimiste. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Hélène.
Vous êtes notre correspondant à Washington. Depuis 24 heures, les nouvelles sur l'état de santé du président américain sont assez contradictoires et entretiennent le flou, même le doute.
Oui, parce qu'il y a cette vidéo de 4 minutes dans laquelle Donald Trump s'adresse aux Américains et il explique que désormais ça va beaucoup mieux et qu'il espère être très vite de retour dans la campagne électorale. Il y a aussi ces deux photos non datées que la Maison Blanche nous a envoyées tard hier soir par email où l'on voit Donald Trump travailler à un bureau qu'on imagine situé dans la suite présidentielle de l'hôpital. Il y a donc cette volonté de rassurer, mais à l'inverse, on a aussi le communiqué publié tard hier soir par le médecin personnel de Trump, le docteur Sean Conley, qui écrit quoi ? Ça tient en quelques lignes. L'état du président continue à bien évoluer, mais il n'est pas encore sorti d'affaire et l'équipe médicale qui le soigne est prudemment optimiste. Enfin, il y a eu à la mi-journée hier cet échange étonnant entre le chef de cabinet de la Maison Blanche et les journalistes du Poule, vous savez, ceux qui suivent le président partout où il va. Et que leur dit Mark Meadows ? Eh bien, que ces dernières 24 heures, les signes vitaux du président avaient été très inquiétants et que les 48 prochaines heures seront critiques. Depuis la nuit de jeudi à vendredi, les déclarations de la Maison Blanche et de l'équipe médicale en charge du président sont parfois ambiguës, voire même contradictoires, ce qui évidemment ajoute pas mal d'incertitudes.
Grégory Phillips depuis Washington pour France Inter. On a appris aussi cette nuit que le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo allait écourter son voyage en Asie. Il rentrera mardi. Les chiffres du Covid en France. 17 000 nouveaux cas en 24 heures, du jamais vu. Plus de 4 000 nouvelles hospitalisations sur les 7 derniers jours et plus de 800 en réanimation. À Paris et en proche banlieue, les indicateurs sont dans le rouge. Le ministre de la Santé doit s'exprimer aujourd'hui, demain ou plus tard, après une concertation avec les élus. Sauf surprise, ce sera pour annoncer le basculement en zone d'alerte maximale. Ça veut dire terminer les fêtes de famille, rideau aussi pour les bars comme à Marseille. Les restaurants, eux, sont encore en sursis. Le Haut Conseil de la Santé publique doit dire si le protocole sanitaire présenté par la profession est pertinent. Le gouvernement, ensuite, devra trancher sur la liste des nouvelles mesures proposées. La prise de température à l'entrée, la jauge à 8 clients par table maximum ou encore ce cahier de rappel où chacun laisse ses coordonnées. Le président de l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration de la région parisienne, Franck Delvaux, veut voir le verre à moitié plein.
On est confiant parce que si avec ce protocole-là, on décide de fermer les restaurants, mais dans ce cas-là, il faut reconfiner l'ensemble du pays. Il y a essentiellement le cahier de rappel qui a bien plu au ministre Véran, qui permettra, en cas de cluster, de pouvoir, via l'ARS, tracer les clients et de retrouver les clients qui étaient présents à telle date, telle heure dans un établissement. Et puis surtout aussi, ce qui a été favorablement accueilli, c'est l'encaissement à table qui empêche d'avoir trop de mouvement à l'intérieur d'un établissement. On a eu donc une réunion vendredi. Le ministre Véran devait avoir une réunion avec les préfets et puis voir avec le conseil scientifique. Donc voilà, je pense qu'on aura une réponse, un retour à partir de lundi.
Franck Delvaux de l'UMI avec Marie-Jeanne Delepaule de France Bleu Paris. C'est une conséquence de la crise, les dépenses des collectivités locales s'envolent avec une explosion notamment du RSA. Un bond inédit de 9% au mois d'août en moyenne, avec surtout de jeunes intérimaires ou en CDD qui ont trop peu travaillé pour toucher le chômage. Les élus lancent un cri d'alarme et réclament l'aide de l'État. En bref, encore mobilisation des salariés de Bridgestone aujourd'hui dans les rues de Béthune. La direction japonaise de ce groupe d'optomatique a annoncé mi-septembre la fermeture de l'usine et a évoqué des solutions alternatives, mais rien de précis. L'intervention du gouvernement n'a rien changé. Les salariés manifestent à deux jours d'un nouveau round de négociations. Une marche blanche cet après-midi en hommage à Victorine, cette jeune fille de 18 ans. Son corps retrouvé dans un ruisseau il y a une semaine. Les habitants de Villefontaine en Isère se rassemblent tout à l'heure à 14h30. Et puis la France ou l'indépendance. Scrutin crucial en Nouvelle-Calédonie. Deuxième référendum d'autodétermination. Résultat prévu à la mi-journée. Le président Macron a prévu de s'exprimer dans la foulée à 13h depuis l'Elysée.
Des nouvelles ce matin de la franco-iranienne Fariba Adelka.
La chercheuse de Sciences Po Paris a pu sortir de prison hier. Enfermée depuis un an dans les geôles de Téhéran en Iran, elle a pu retrouver sa famille. Libération temporaire. Fariba Adelka, condamnée pour collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale, accusée de propagande contre le système, doit porter un bracelet électronique. Son comité de soutien vit cette libération comme une première victoire, mais reste très prudent pour la suite. Son président, Jean-François Bayard.
L'objet de cette assignation à résidence, si nous avons bien compris, est d'ordre médical. Fariba Adelka pourra ainsi faire les examens médicaux que nécessitent les séquelles de sa longue grève de la faim en janvier-février. C'est effectivement une bonne nouvelle. Donc si on voit le verre à moitié plein, très bien. Mais enfin, il y a plus du verre qui est à moitié vide, si je veux dire. Elle est malheureusement susceptible de retourner en prison. Aujourd'hui, Fariba et Adelka est toujours sous le coup d'une peine d'emprisonnement de 5 ans pour des faits complètement fantasmatiques, sur la base d'un dossier d'accusation délirant, et sa seule culpabilité est d'avoir exercé en toute indépendance d'esprit et en toute rigueur son métier d'anthropologue.
Jean-François Bayard, président du comité de soutien de Fariba Adelka. À l'étranger toujours, le conflit est entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens. Nouveau bombardement ce matin dans la capitale du Karabakh. Enfin, la saison des prix Nobel, celui de médecine, demain pour ouvrir la semaine, pour le prix Nobel de la paix qui sera décerné vendredi prochain. Sur la liste des favoris, la chancelière Angela Merkel, la jeune militante Greta Thunberg, l'ONG Reporters sans frontières, mais aussi un certain Donald Trump, si c'est vrai, pour l'accord conclu entre Israël et les Émirats.